moi, j'ai pas de télé. Bah, c'est des sujets, des fois, qui peuvent être pas très intéressants. Puis ma grande cousine, elle n'a pas le droit de regarder les informations parce qu'il y a des mauvaises images, des fois.
Bah oui, le matin.
C'est France Inter. Mais ouais, c'est beaucoup plus la radio, la télé, on regarde pas trop. Pas vraiment.
C'est plus les émissions de culture, un peu plus.
Moi, ce matin, j'ai rien écouté. Parce que je n'avais pas le temps, parce que je devais aller à l'école.
J'aime bien la télé, mais le journal aussi, c'est bien.
De la radio, j'aime pas trop lire. J'aime bien écouter les voix, et puis j'arrive plus à être concentrée dans ce qu'ils parlent en écoutant qu'en lisant.
Le matin, mon papa il met la radio, mais moi je prends mon petit déjeuner, du coup je peux rien écouter.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. En effet, la radio, avant d'aller à l'école, ça n'est pas simple, surtout devant un bol de céréales. Mâcher des cornflakes empêche d'écouter le journal, c'est indubitable. Les enfants face à l'actualité, voilà notre sujet cette semaine dans Barbatruc. Le procès des attentats du 13 novembre fait ressurgir une question difficile. Comment parler des événements graves avec les enfants? Que faire de notre émotion d'adulte et de notre peur de les effrayer, surtout? À quelle distance faut-il se placer? Actualité politique, internationale, culturelle ou sanitaire, est-ce le rôle des parents que d'expliquer l'actualité aux enfants et aux ados? Comment les aider à s'informer? Mais aussi comment s'intéresser à la façon dont ils s'informent de leur côté? Et si on évitait de se placer dans une position de surplomb? Et si on s'interrogeait avec eux sur l'actualité? Voilà le programme, il est riche en questions. D'ici trois quarts d'heure, vous retrouvez votre rendez-vous avec Denis Chessou et l'actualité du livre Jeunesse. L'as-tu lu, mon petit loup? C'est parti, l'actualité à hauteur d'enfant.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page, réalisée par Christophe Imbert avec Gilles Gaillard à la technique. Et j'accueille deux invités, un troisième nous rejoindra tout à l'heure. Bonjour Julien Mock.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes ici à la maison, journaliste radio. Vous avez longtemps travaillé à France Info, deux étages en dessous. Et vous avez créé un studio indépendant de podcast basé à Saint-Nazaire qui fabrique des contenus audio pour les enfants et les ados, notamment un podcast formidable qui s'appelle Qui a inventé. On en parlera dans un instant. D'abord, une question sur votre casquette de journaliste. Comment expliquez-vous ce métier à un enfant de 5 ans, par exemple ?
Eh ben, on leur explique souvent par l'exemple. Enfin, moi, c'est ce que j'aime faire, en tout cas, pour qu'ils comprennent ce qu'on fait. Lui expliquer que notre métier, c'est de rendre compte de ce qui se passe dans le monde, ou au coin de la rue, ou dans la ville, ou dans sa classe. Et puis, partant de là, peut-être lui expliquer un peu plus en détail que on va recueillir la parole des gens, essayer de comprendre quand il y a un problème, par exemple, à la cantine, s'il y a une manifestation d'enfants qui sont pas contents parce qu'il y a trop de frites à la cantine, qu'il entend ça, qu'est-ce qu'il peut faire lui en tant que journaliste? Il peut aller interroger les enfants qui manifestent pour comprendre pourquoi ils sont pas contents. Mais est-ce qu'on peut faire que ça? Oui, non, peut-être. Et après, on développe comme ça, on lui explique ce que c'est concrètement. Je pense que le concret et l'illustration par l'exemple qui les touche, c'est probablement ce qu'il y a de plus intéressant pour leur faire comprendre notre métier.
Très bonne idée, le reportage sur la manif à la cantine. Anne Cordier est aussi avec nous, bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, chercheuse au Centre de Recherche sur les Médiations, ancienne professeure documentaliste au collège et au lycée. Vous avez écrit ce livre intitulé « Grandir connecté », édition C et F, les adolescents et la recherche d'information. La couverture de ce livre, c'est impressionnant. Je crois que c'est la journée d'un ado racontée en emoji.
Exactement, et un hommage doit être rendu à tout simplement au maquettiste de CF Édition, Nicolas Taffin, qui a eu l'idée de cette couverture. Et avec cette volonté, en fait, justement, de montrer qu'on grandit avec différents langages, avec différentes histoires qui font partie de notre vie. Et les emojis viennent illustrer, en fait, le quotidien d'un enfant. Et dedans, il y a d'ailleurs des emojis liés aux médias.
Est-ce que vous êtes surprise par les mots d'enfants qu'on a entendus en introduction de cette émission?
Alors, surprise, non, mais toujours touchée par le fait de les entendre. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le principe, pour le coup, de cette émission qui suppose justement de donner la parole à des enfants et des adolescents de tout milieu et de toute région possible aussi. Et ça, c'est je pense aussi ce qui peut nous réunir, qu'on soit journaliste, chercheur ou tout simplement intéressé par le monde de l'éducation, c'est de prêter attention à ce qu'il raconte et la manière dont il le raconte.
Alors ça a évidemment la valeur d'un échantillon, hein, ce sont des paroles recueillies dans la rue, mais on n'entendait pas un enthousiasme ni un intérêt débridé pour l'actualité. Ça c'est déjà un premier élément de réponse aux questions qu'on se pose aujourd'hui.
Oui, alors je nuancerai en fait cette idée d'enthousiasme parce que quand vous demandez à un enfant ou même à un adolescent s'il s'informe sur l'actualité, il entend actualité politique, nationale, internationale, événement grave, d'accord ? Sérieux, légitime selon l'école, selon les parents, etc. Alors que si vous lui demandez s'il aime s'informer sur les ours polaires, sur le dernier CD... on va citer personne pour ne vexer personne, voilà, ou pour pas que les parents se disent « Oh là là, on est décalé ». Mais si on leur demande s'ils aiment s'informer sur d'autres sujets et sur lesquels, là, on va rencontrer de l'enthousiasme. Notre difficulté, c'est de plaquer nos centres d'intérêt sur des enfants ou des adolescents.
Et on en entendra d'autres, évidemment, des paroles d'enfants et d'ados au fil de cette émission, notamment sur les événements qui font peur dans l'actualité et sur une question compliquée. À quoi ça sert de s'informer ? On est ensemble jusqu'à 16h sur France Inter.
Montre-moi ton point sensible.
Barbe. Point sensible, c'était Malik Djoudi et Lala S, programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. Une auditrice m'a raconté que l'un de ses enfants récemment a cru qu'on parlait de Ninjago à la radio le matin. En réalité, il était question de Yannick Jadot. Les Ninjago, pour ceux et celles qui l'ignorent, ce sont des ninjas en Lego. Rien à voir donc, a priori, hein, avec la vie politique française. Nous parlons cette semaine d'actualité dans Barbatruc avec Anne Cordier, maîtresse de conférences en sciences de l'information, ancienne documentaliste, professeure documentaliste au collège et au lycée, et avec Julien Mock, qui est créateur de podcasts pour enfants. Anne Cordier, est-ce que c'est le rôle des parents, à votre avis, que d'intéresser les enfants à l'actualité ?
Oui, alors aujourd'hui les parents croulent sous les discours injonctifs, moi je trouve, donc je suis très prudente sur la réponse que je vais vous donner. J'aurais tendance à dire l'intérêt des parents est transmissif quelque part, c'est-à-dire que quand on voit ses parents s'intéresser à soi, en tant qu'enfant ou adolescent, quand on voit les parents s'intéresser au monde, ça donne de fait une façon de regarder le monde différemment et peut-être de façon plus attentive. Après, il faut pas nier le fait qu'il y a des grilles de lecture et de compréhension de l'actualité et des médias, et que ces grilles, tous les parents n'en disposent pas. Et donc on peut pas faire peser sur les parents une responsabilité éducative qui est plurielle et qui est notamment d'ailleurs celle de l'école.
C'est une phrase qu'on répète beaucoup dans cette émission, mais c'est pas si grave de répondre à un enfant « je ne sais pas ».
Mais c'est surtout pas grave de répondre à un enfant « je ne sais pas » parce que le partage du « je ne sais pas », c'est déjà du partage.
Et on va chercher la réponse ensemble.
Et voilà, on va chercher la réponse et on va se demander où on va chercher la réponse.
Écoutons des enfants et des adolescents. Notre reporter Juliette Proutot s'est promenée dans les rues de Nantes cette semaine pour leur demander d'abord de quel sujet d'actualité ils avaient entendu parler récemment.
Chez mes grands-parents, je regarde les informations et j'ai vu que pendant les vacances, il y avait des inondations.
Des quoi ? Si mes grands-parents ils regardent des informations sur les terres qui se cassent. Là, il y a de l'eau qui monte et qui prend toutes les maisons.
Sur le Covid encore, un peu ennuyant.
Il y a un truc, mais je m'en souviens plus.
Je sais pas.
Il y a je sais plus quoi qui a brûlé il n'y a pas très très longtemps.
Oui. Le 14 juillet, il y a eu un attentat de l'avion qui a foncé dans le Express. Dans un gratte-ciel.
On regarde beaucoup C'est à vous sur la 5.
Bah, hier c'était le débat.
Zemmour et Mélenchon.
Ouais.
Voilà. C'était un gros truc quand même.
Comment
il s'appelle Hugo Décrypte, qui parle plus politique aussi. Ouais.
Les élections présidentielles.
Il y avait le débat, c'était hier soir. Jean-Luc Mélenchon.
Alors, en ce moment c'est plutôt axé sur ça. Hein.
Moi j'ai pas trop écouté non plus, après j'ai juste entendu des rumeurs, des on-dit de ce qui s'était passé, et apparemment c'était pas très très constructif sur tout ce qui s'était dit, mais bon, c'est la politique.
Est-ce que des fois il y a des informations qui vous font un peu peur ?
Bah oui, par exemple l'attentat et le Covid, ça me fait peur moi en tout cas.
Un peu au début du Covid, ça me faisait un peu peur.
Et aussi, moi, j'étais chez mes grands-parents quand la Dame de Paris, elle a brûlé. Donc, du coup, ils ont dit de pas trop regarder ça, par exemple. Mais c'était quand j'étais plus petite, parce que là, ils savent quand même que je vois un peu des trucs interdits au moins de 10 ans.
Voilà, parfois pas mal de mélanges. Hein. Des avions qui s'écrasent sur une tour le 14 juillet. On mélange ici l'attentat de Nice en 2016 et celui du 11 septembre 2001, dont on a commémoré récemment le 20e anniversaire. L'actualité fait peur parfois, Julien Mock.
Elle peut faire peur, bien sûr, oui. Alors, je trouve très intéressant ce micro-trottoir, ces micro-tendus aux enfants, parce qu'on sent bien dans les réponses la différence qu'il peut y avoir de la perception de l'enfant sur l'actualité, en fonction de l'âge. Pour revenir à la question, oui, bien sûr, les actualités parfois peuvent être anxiogènes. Donc, il faut une certaine vigilance en tant que parent, notamment, je pense aux images, et là, c'est l'homme de radio qui parle, mais malgré tout, des mots peuvent aussi avoir pesé sur l'imaginaire de l'enfant. Donc, il faut faire attention quand on écoute la radio, quand on regarde la télé. Est-ce que mon enfant est là, regarde, qu'est-ce qu'il comprend de tout ça? Mais ça peut parfois... Alors, des fois, il faut juste couper, hein, parce que il y a des images qui sont profondément marquantes. Mais de temps en temps, ça peut aussi être l'occasion d'ouvrir un débat ou de parler de certaines choses. Et puis, plus on va faire ça, plus on va discuter de l'actualité, interroger l'enfant sur ce qu'il a compris, répondre à ses questions, parfois en disant « je ne sais pas », parfois en disant « du coup, je ne sais pas, mais t'inquiète, j'en parlerai avec toi plus tard ». Ou alors, on va chercher ensemble et on va apprendre, du coup, on apprend deux choses. On apprend la réponse et on apprend à chercher. Et à chercher au bon endroit, des bonnes sources, etc. Donc, oui, on ne va pas se leurrer, l'actualité, parfois, est angoissante.
Alors, pour parler justement de cette peur que nos enfants soient traumatisés par l'actualité qui habite beaucoup de parents, nous sommes en ligne à présent avec Antoine Devos. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre au centre hospitalier de Bayeux, dans le Calvados, et vous êtes également membre du conseil scientifique de la Fédération nationale de l'école des parents et des éducateurs, qui est une association qui aide les parents à la parentalité, si j'ose dire, qui vient en aide aux parents.
Tout à fait.
Quel conseil donneriez-vous aux parents pour affronter l'actualité quand elle est particulièrement tragique ou grave?
En fait, je vais rejoindre vos invités, c'est-à-dire... je crois que lorsqu'on est confronté à des événements extrêmement douloureux, avec un fort impact émotionnel, en parler avec les enfants, c'est pas se mettre dans une position de parent active, je dirais en surplomb, délivrant un message à des enfants qui seraient dans une position passive, c'est se mettre à leur écoute en fait. Donc ce n'est pas parler tellement de l'actu aux enfants, c'est se mettre en situation de se parler et de construire un dialogue avec eux.
Il y a cette idée aussi de raconter des histoires aux enfants, de s'appuyer sur leur capacité à rêver, Antoine DeVos.
Ouais, tout à fait. Moi, j'ai noté tout à l'heure, c'est vrai, le petit mot du Ninjago, là, j'ai trouvé ça assez génial. C'est-à-dire qu'en effet, la parole de l'enfant n'est pas comme celle de l'adulte. Il n'est pas pris dans une même réalité. L'enfant, il a besoin, pour pouvoir absorber ses émotions, les apprivoiser, les transformer, de soutenir une capacité de rêverie.
Voilà, cette confusion entre Yannick Jadot et un Ninjago, vous y voyez-vous la capacité de rêverie de l'enfant ?
Bah, tout à fait. Je trouvais qu'il y avait aussi une autre petite phrase qui a été dite, c'était qui nous permet aussi de situer comment l'enfant entend. Il y a un enfant qui a dit « j'aime bien écouter les voix
ouais. ».
Et donc là, on entend que l'enfant, il est peut-être plus attentif à la mélodie de la voix, à son rythme, au contenu émotionnel en fait qui transite via la voix qu'au message explicite, si vous voulez. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'entendre ça, parce que ça nous permet de situer que nous pouvons nous adresser aux enfants. On peut dire des choses très très graves, mais qu'il est nécessaire de s'adresser à eux d'une façon qui les aurait ajustées.
Moi, je me souviens à titre personnel qu'après les attentats de 2015, je pouvais pas écouter la radio au petit déjeuner avec les enfants, parce que c'était trop dur de devoir leur expliquer pourquoi ce que j'entendais me touchait autant. Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion-là, de l'émotion des adultes qui sont aussi des parents ?
Ah bah c'est une bonne question, c'est-à-dire qu'en effet, vous faites référence à un moment donné à un trop. Je crois que lorsqu'on est envahi soi-même, on est incapable de transmettre quelque chose qui va être digeste pour l'enfant. Donc la première chose à faire, en effet, c'est qu'à un moment donné, on coupe le flux d'informations, puisqu'il nous faut pouvoir prendre un temps nécessaire pour digérer ce que nous venons d'entendre. Et l'enfant va s'appuyer sur notre capacité à digérer les éléments. Nous, on a la responsabilité, je dirais, de leur transmettre quelque chose de digeste. Hein, exactement comme la maman oiseau donne de la béquille, elle mâche avant l'aliment. Hein, donc, elle donne pas à son oisillon quelque chose qui serait impossible à manger pour lui. Donc, de la même manière, on doit pouvoir un peu digérer quand même les événements et en quoi ils nous traversent, ce qu'ils nous font vivre, en pouvant s'appuyer sur des amis, sur des collègues, sur le conjoint, pour pouvoir en parler tranquillement aux enfants ensuite.
De la même manière qu'il n'est pas si grave de leur dire « je ne sais pas », j'imagine qu'il n'est pas grave non plus de leur dire « je suis très touché par cette actualité ».
Vous faites en effet référence à la reconnaissance émotionnelle, ouais. C'est très juste.
On C'est-à-dire a le droit d'avoir des émotions aussi, en tant que parent.
Exact, heureusement, nous en avons. C'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que on peut dire qu'on a peur. On peut dire qu'on est triste, qu'on est choqué, qu'on n'arrive pas à réfléchir ou à penser ce qui arrive. Au lieu d'entrer dans le détail, par exemple, de ce qui se passe, eh bien juste partager les émotions par lesquelles on a été traversé. Et je crois que là, on a aussi, on permet à l'enfant de s'appuyer et de s'identifier à cette reconnaissance émotionnelle et de lui donner des billes pour qu'il puisse lui-même appréhender le monde qui l'entoure.
La crise sanitaire qui a privé les enfants d'école, qui les a assignés à domicile, qui les fait désormais porter un masque à l'école, voilà un sujet qui concerne les enfants. Est-ce qu'ils sont, à votre avis, plus intéressés et désireux de comprendre l'actu quand ils sont concernés ?
Tout à l'heure, on entendait le Covid, ouais, c'est bon. On
en a marre. Voilà.
J'ai l'impression aussi que le sujet de l'actu, c'est bien quand c'est des éléments concrets. Alors, je trouve que on peut aussi soutenir la réflexion autour de l'actualité à partir de ce qu'ils vivent, eux, dans le quotidien. Comment ça se passe dans leur classe, comment ça se passe dans la vie familiale, comment ça se passe à la cantine. Parce qu'il y a des éléments de l'actualité qui peuvent avoir des résonances avec la vie personnelle de l'enfant, la vie quotidienne de l'enfant. Alors, en ce qui concerne le traitement du Covid, le masque, à un moment donné, je pense qu'ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire que ça sature. Donc, je crois qu'il faut faire attention à ces effets de saturation, dire à un moment donné, bon, ça suffit, je crois qu'on en a assez parlé, on peut peut-être parler d'autre chose. Il y a d'autres choses qui se passent, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il n'y a pas que des drames, il y a d'autres choses qui se jouent, et de façon à pas écraser, je dirais, la capacité de rêverie de l'enfant, c'est-à-dire à se retrouver dans une situation où il serait qu'en proie à des choses dramatiques autour de lui, quoi.
Et puis il y a parfois des pas de côté qui permettent de dédramatiser la peur, Antoine DeVos. Est-ce que vous connaissez le loup en slip ?
Bah oui.
Vous nous parlez du loup en slip, s'il vous plaît.
Bah, par exemple, moi, c'est vrai que dans les livres, les histoires, il y a des trucs, des inventions géniales. Quand on rêve du loup, on a peur du loup, le grand méchant loup, tout le monde connaît ça. Et puis, en effet, quand il y a un auteur qui commence à présenter le loup en slip, eh bien, on commence à se marrer, quoi.
Ça les dramatise un peu.
Ça permet d'apprivoiser le loup, et puis on se rend compte que, bah, ce loup en slip, il est comme tout le monde, et qu'il est pas du tout ce qu'on en pensait. Alors, ça permet de se réinterroger sur les représentations, ça soutient aussi l'esprit critique, hein, puisque parfois on identifie un méchant, mais en fait, on se dit peut-être ce méchant, s'il était en slip, on le verrait tout à fait différemment. Voilà, ça, je trouve que c'est quand même des occasions géniales, quoi, que les enfants nous donnent et qu'on, à mon avis, on a tout intérêt à s'appuyer sur leur rêverie, sur le côté décalé, pour nous-mêmes avancer et grandir psychiquement.
C'est une série de livres jeunesse, Le Loup en slip. L'illustratrice à qui on doit ce personnage a encore sévi, je vais en parler dans un instant. Merci beaucoup Antoine DeVos.
Bon, merci à vous.
Pédopsychiatre au centre hospitalier de Bayeux. Bonne journée, à bientôt.
Bonne journée.
Et voici en effet un conseil de lecture. Après Le Loup en slip, je vous présente Un flamand en bottes. Mayana Itoiz est illustratrice. C'est elle qui a créé ce personnage du loup en slip qu'on adore. Elle est de retour en librairie avec ce livre que je recommande ô combien pour les enfants à partir de 3 ans. Ça s'appelle Bijoux et ronchons aux éditions Les Albums Casterman. Le texte est signé Emmanuel Bergougnou et les dessins donc de Mayana Itoiz. C'est l'histoire d'un flamand rose noir. Il est différent, comme tous les enfants, et il est parfois ronchon, comme tous les enfants. Je montre Bijoux à mes invités ici présents. Regardez, il n'est pas ronchon à moitié. Hein.
Oui, il le fait bien.
Il est si mignon avec ses bottes jaunes et son bonnet jaune qui lui tombe sur les yeux. Bijoux est de mauvaise humeur parce qu'il a peur que les gens s'aperçoivent qu'il ne sait pas voler. Il a peur de Jean-Kévin aussi, qui terrorise tout le monde dans la cour de récré. Mais notre flamand ne va pas se laisser voler dans les plumes. Il prendra son envol. C'est un livre tordant, plein de sagesse et de poésie. Les personnages ont de drôles de trognes et de sacrées jolies couleurs. Bijoux et ronchon sort en librairie la semaine prochaine, le 6 octobre, et c'est immanquable. Et puis ce titre m'a fait penser à une chanson. C'est mon deuxième conseil du jour. Une chanson qui n'est pas neuve, elle date de 2009, mais elle est bien utile pour rire avec les enfants quand se pointe la mauvaise humeur.
C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt en cherchant la clé de la maison des Ronchonchons. Et Bernard Vénère qui lui crie après: qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon? Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu un truc. Qu'est-ce que t'en as fait? Si je le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon, toi. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous pénétrons dans la maison des ronchonchons.
Alexis HK, la maison ronchonchon, extrait de son album Les Affranchis. Le morceau est disponible sur les plateformes de streaming et je vous conseille aussi vivement le clip. Testé et approuvé à la maison pour dédramatiser la mauvaise humeur d'un enfant, appelez-le Bernard Vénère, il va adorer. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à me servir de la maison des ronchonchons. Alexis HK, cette vidéo affiche plus de 2 millions de vues sur YouTube. Vous trouverez bien sûr un lien à la page de Barbatruc sur le site de France Inter.
Dorothée Barba,
le samedi à 15h.
Vous écoutez Barbatruc, le rendez-vous des parents, et on s'interroge aujourd'hui sur les meilleures façons d'aborder l'actualité avec les enfants et les ados. Julien Mock, journaliste, créateur de podcast jeunesse, Anne Cordier, chercheuse en sciences de l'information, sont mes invités. Et on va se poser les bonnes questions à présent. Qui a inventé la démocratie? Qui a inventé la poubelle? Qui a inventé le cinéma? Votre podcast, Julien Mock, se propose d'éclairer la curiosité des enfants entre 8 et 12 ans, mais on peut l'écouter, à mon avis, un peu avant 8 ans. Et bien après 12 ans.
Après, c'est sûr.
Ça s'appelle Qui a inventé? Podcast proposé par Image Doc, qui est un magazine de Bayard Jeunesse. On va écouter un extrait. Anne Cordier, tenez, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez la salade Marco Polo? C'est une salade de pâtes avec des crevettes. Marco Polo et les pâtes, voilà un vaste sujet.
Marco Polo, né à Venise. À 17 ans, il part pour un long voyage vers la Chine. Il accompagne son père et son oncle, des marchands qui vont chercher des produits dans des contrées lointaines. Marco Polo traverse des déserts, des montagnes enneigées, des fleuves, d'immenses forêts. Il échappe aux voleurs, aux bêtes sauvages. Bref, 3 ans d'aventure avant d'arriver en Chine. où il rencontre le grand Khan, l'empereur des Chinois. Marco décide de rester et de travailler pour cet empereur. Il ne reviendra en Italie que 24 ans après son départ.
Alors là, je suis épaté.
C'était un homme curieux, observateur. Il a raconté ce qu'il a vu en Asie, comment les habitants vivaient, comment ils se nourrissaient. Et puis, il a ramené plein de trésors de ses voyages. De la soie, des pierres précieuses, des épices, de nouvelles céréales et...
Et des pâtes ?
Eh bien non. On a longtemps cru que Marco Polo avait ramené les pâtes en Italie, mais c'est une légende. Dans l'Antiquité, les Romains mangeaient déjà des pâtes. En Chine, des scientifiques ont retrouvé un pot avec des nouilles dedans. Des nouilles vieilles de 4000 ans.
Elles ont l'air pas très bonnes à manger, ces nouilles.
Bien longtemps donc, avant la naissance de Marco Polo, hein, de son arrière-grand-père même, et même de son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière.
Ça va, on a compris, hein.
Le podcast s'appelle « Qui a inventé ?». C'était un extrait de l'épisode « Qui a inventé les pâtes ?», bien sûr. Le podcast est disponible sur le blog d'Image Doc, le magazine Bayard Press, ou sur les plateformes de streaming. Également sur l'application Bayam, très bonne application de Bayard Jeunesse. Julien Mock, comment choisissez-vous les questions auxquelles vous répondez dans ce podcast ?
Ah, alors, grand sujet. On essaye de partir de la thématique du magazine qui n'est pas nécessairement une invention. Qui a inventé est un programme qui s'écoute de lui-même. Donc là, en l'occurrence, c'était le tour du monde des saveurs. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut raconter comme invention ? Qui a inventé la cuisine ? Qui a inventé la cuisson ? Qui a inventé ? Qu'est-ce qu'aiment les enfants ? Les glaces ? Les pâtes ? Ah tiens, les pâtes, c'est pas mal ça. Ouais, les pâtes. Allons-y.
Il y a un ton, évidemment, à choisir qui est très subtil quand on s'adresse à des enfants pour pas non plus les prendre pour des imbéciles.
Oui.
C'est votre souci et ça s'entend clairement dans ce podcast.
Oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et c'est quelque chose que je veux mettre au cœur de mon projet à ma petite échelle chez Billy the Cast. C'est vraiment de se mettre à la place de l'enfant, d'essayer d'imaginer des contenus qui lui plaisent, pas qui plaisent aux parents, hein, qui lui plaisent, même si évidemment il faut arriver à toucher l'adulte, parce que c'est l'adulte jusqu'à un certain âge qui a le smartphone ou la tablette et qui fait écouter à l'enfant. Mais voilà, il faut trouver un savant dosage, respecter ce que dit l'enfant quand il vous livre quelque chose au micro. Et puis, je pense qu'il faut accepter aussi parfois qu'il est, dans leur vie d'enfant, nous, adultes, on n'est pas toujours très très rigolo, on est parfois moralisateur, on est parfois ceci, cela. Et bon, et puis moi le premier, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'on raconte des choses sérieuses, on peut raconter des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et donc, l'enfant, il le sent. Comme l'adulte, il sent quand on lui raconte quelque chose de sérieux, de vrai, de vérifié, de documenté. Et qu'en même temps, si on peut se faire le plaisir d'une petite pirouette, d'une petite vanne, d'une petite blague, ça fait jamais de mal.
Ça rejoint, Anne Cordier, ce que disait tout à l'heure le pédopsychiatre qu'on avait en ligne sur la capacité de rêverie des enfants. S'amuser en apprenant.
Ah non, mais ça, c'est une dimension essentielle. D'ailleurs, quand on dit « il ne s'intéresse pas à l'actualité », si, mais cessons de renvoyer quelque chose d'ultra-anxiogène à chaque fois. Mm-hmm. Ils prennent énormément de plaisir, en fait, à s'informer, contrairement à ce qu'on raconte. Hein, quand on prend le temps de les écouter, quand ils font part de leurs expériences informationnelles, elles sont joyeuses. Elles sont joyeuses parce qu'elles sont partagées avec les grands-parents, avec les parents, avec les grands-frères. Elles sont joyeuses parce qu'elles enrichissent et que ça leur a permis de découvrir autre chose, que ce soit des enfants ou des adolescents. Hein. Tout à l'heure, vous aviez un adolescent qui parlait de Hugo Décrypte,
oui,
par
c'est
exemple.
C'est un vidéaste, une chaîne YouTube.
Voilà, et le plaisir qu'ils ressentent là est immense et il leur permet aussi d'aller encore et encore et encore vers d'autres mondes, d'autres choses. Donc cette notion de plaisir, du plaisir d'accéder à de l'information et du plaisir de s'informer, il me semble qu'elle est au cœur du c'est le premier pas de tout projet éducatif autour de ça.
Et c'est aussi la responsabilité des parents que de s'intéresser à leur source d'information, par exemple à Hugo Décrypte.
En fait, de s'intéresser à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils font, à ce qu'ils rencontrent, à ce qu'ils découvrent, parce qu'en plus, c'est un peu comme la salade de pâtes de Marco Polo. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on découvre à travers, en fait, le regard et les intérêts des enfants et des adolescents, des choses que nous-mêmes on connaît pas. Et donc, ça nous sensibilise à des sujets, mais aussi à des formats. Je crois que ça, c'est aussi important. C'est-à-dire à des nouvelles manières, peut-être, pour nous en tout cas, de s'informer, de considérer le travail journalistique. Et oui, ils aiment un ton, ils aiment une façon d'être, mais finalement, c'est la même chose que nous. On a aimé ou on aime encore des façons d'être ou de raconter une histoire ou de répondre à des questions difficiles avec des mots simples.
Mais au fait, à quoi ça sert de s'informer? Voilà une question glissante, celle de l'utilité de l'actualité. Notre reporter Juliette Proutot l'a posée à des enfants.
C'est important de savoir les informations parce que, par exemple, le Covid, eh ben, on va prendre des risques parce qu'on ne sait pas qu'il est là. Pour ne pas savoir que ce que tu fais de ta vie. Pour aussi, si par exemple, quelque part, il y a le feu, bah, comme ça, on fait attention de là où on va.
Pour savoir ce qui se passe dans le monde, s'il y a des nouvelles choses et qu'on sache qu'on est au courant. Pas qu'on soit dans le flou par rapport à ça et ce qui se passe en ce moment.
Parce que bah, ça peut nous mettre la bonne actualité. Parce que des fois, on peut être un peu en retard, hors sujet. Et c'est pas très agréable.
Pour savoir ce qui se passe dans le monde. Mais pour savoir quand même s'il n'y a pas des infos nouvelles qui viennent juste d'arriver.
Oui, pour bien être au courant.
Si c'est pas sur le Covid, pour savoir s'il n'y aura pas un passe sanitaire ou l'école interdite.
Oui, un confinement. Oui.
Moi, je préfère savoir. Parce que, par exemple, bah, on aurait su qu'il fallait avoir le masque, mais bah, au début, on n'aurait pas su.
Mes invités cette semaine sont très studieux. Ils prennent des notes à chaque fois que parlent les enfants et les ados. Julien Mock, qu'avez-vous noté sur votre cahier à spirale ?
Eh ben, ce qui me frappe, c'est que en quelques mots, ils ont résumé ce qui fait le sel du journalisme. Ne pas savoir...
Ne pas se limiter à ce qui nous concerne, nous, d'abord.
Oui, bien sûr. Et voilà, ils ont élaboré quelques grands principes du journalisme. On parle de la nouveauté, on parle des infos pratiques, comme pour les adultes. Voilà, les choses qui nous servent. Il y a un incendie quelque part, c'est ce que dit cette petite fille, je crois. Il y a un incendie quelque part, et ben on ne va pas y aller. Bon, ça nous sert aussi à savoir ce que tu fais de ta vie, à comprendre le monde quelque part, à éveiller les consciences. Alors, même si c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, à donner des clés de compréhension qui ensuite vont permettre d'évoluer, de grandir, de se faire ses propres choix, ses propres opinions.
S'intéresser à l'actualité, est-ce que ça développe l'esprit critique, tout simplement ?
Je suis un peu déformé à ce niveau-là, je pense que oui. Mais il y a plein de manières de développer l'esprit critique. L'actualité est un de ces outils, ce n'est pas le seul, loin de là, il ne faut pas être prétentieux. Voilà. En revanche, je pense que, pour rejoindre ce qui a été dit à plusieurs reprises avant, il y a vraiment une manière de parler aux enfants selon les âges. On voit bien aussi de la manière dont ils s'expriment qu'ils ne vont pas recevoir les choses de la même manière. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. Alors que ça peut être parfois par le ton de l'humour, ça peut être voilà le loup en slip pour désacraliser la peur. On pourrait imaginer, je sais pas moi, le Covid en slip ou le terroriste en slip. Je grossis le trait volontairement, mais l'idée, c'est de savoir qu'à un moment, il faut parler de manière factuelle, dépassionnée, mise en perspective. Et j'ai appris quelque chose aussi en travaillant avec l'équipe d'Astrapi sur Salut l'Info, par exemple, ou l'équipe d'Image Doc. Mais sur l'actu, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que quand on a des sujets qui peuvent être angoissants, dont on sait, nous, adultes, qu'ils sont angoissants pour l'enfant, parfois on oublie qu'il y a d'autres sujets qui peuvent être difficiles, que l'angoisse chez l'enfant, elle naît de choses qui nous paraissent complètement anodines. Et donc, souvent, il faut arriver à ouvrir et à relativiser et à positiver. C'est difficile, c'est une démarche à faire, mais en tout cas rassurer peut-être. On fait un dossier sur le terrorisme justement. Alors déjà, bon, on dépassionne, on met en perspective. Le terrorisme, c'est pas une question que de religion. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Comment on terrorise les gens par la force? Comment on impose ses vues, etc., etc. Vous faites votre explication. Et puis après, si on parle d'un exemple, on parlait des attentats de 2015. À un moment, dire aussi, tu sais, les terroristes, d'abord, ils sont très 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 peu nombreux. Ça n'arrive pas tous les jours. Et puis, il y a des gens dont le métier est de lutter contre le terrorisme. Et depuis ces attentats, on a beaucoup progressé dans l'anticipation, l'évaluation des risques, etc., etc. C'est aussi ça à quoi il faut penser quand on parle à un enfant.
Vous venez d'employer un mot qui n'est pas anodin, Julien Mock, c'est le verbe rassurer. Oui. Un journaliste ou une journaliste qui s'adresse à des adultes, a priori, n'est pas là pour rassurer le public auquel il s'adresse. Quand on parle à des enfants, ce que vous dites, c'est que c'est différent.
Eh ben, on est toujours un petit peu à la frontière, à la lisière entre l'information pure et quelque part, il y a une responsabilité. On s'adresse pas à n'importe qui, mais comme n'importe quel journaliste, on écrit pour nos lecteurs. Quand nos lecteurs sont, je sais pas, vous bossez pour un magazine de philo qui est lu par des doctorants, vous n'allez pas écrire de la même manière que pour un magazine qui s'adresse aux 3-4 ans.
Voilà. Anne Cordier,
Je me permets juste de revenir sur cette question essentielle, hein, il me semble vraiment. Alors, rassurer ou en tout cas de montrer, enfin d'avoir conscience que quand on diffuse de l'information, on porte la responsabilité d'un regard sur le monde. Et si je dis ça, c'est parce que il y a 2 ans, donc c'était avant cette crise sanitaire, j'ai mené une enquête en lycée avec des lycéens, donc de seconde et de première, et ils avaient répondu à l'écrit pour certaines questions. Et plusieurs mettaient qu'en fait, à un moment, ils arrêtaient de s'informer parce que la vision du monde qui leur était renvoyée, elle leur donnait pas envie, je cite, de vivre. Il faut quand même se rappeler qu'on est face à des gens qui sont en construction, à des adolescents, que leur monde, il est difficile aussi quand on est ado, il y a des choses difficiles en fait, alors qui paraissent aux adultes effectivement pas importantes, mais qui sont fondamentales. Et cette vision du monde qui leur est renvoyée, elle donne pas envie de grandir, elle donne pas envie d'aller vers l'avenir, quoi. Et moi, j'avais été frappée quand même de ces élèves qui écrivaient noir sur blanc, ça donne pas envie de vivre. Je suis désolée, j'ai un peu cassé l'ambiance.
Non, mais la responsabilité médiatique et du rôle de filtre aussi des parents est ici très importante. Alors, on a parlé de qui a inventé. Je voudrais recommander aussi 2 autres podcasts qui sont très bien faits pour donner aux enfants et aux ados des clés sur l'actualité. Le premier s'appelle Salut l'info, fabriqué par Astrapi et France Info que vous avez créé, Julien Mock. Et puis France Info Junior, là encore une émission quotidienne sur l'antenne de France Info pour donner des clés aux plus jeunes. On trouvera des liens et des infos à la page de Barbatruc sur notre site franceinter.fr.
Dorothée Barba, le samedi à 15h.
If I don't smile when you're walking by, it's because I can't live a lie. Spend so much time.
C'était Curtis Harding sur France Inter. Tenez, je pioche un nouveau truc dans ma boîte à idées Barbatruc. Un conseil de sortie avec vos enfants. La fête de la science vient tout juste de démarrer partout en France et elle dure jusqu'au 11 octobre. Une fête gratuite et ouverte à tous. Des ateliers, des expos, des visites, des conférences, des jeux. Le programme de la fête de la science est très riche et très varié. Par exemple, si vous habitez à Orléans, je vous recommande les jeux chimiques proposés à l'Institut de chimie organique et analytique. Avis donc à celles et ceux qui rêvent d'entrer dans un laboratoire et de faire des expériences avec des pipettes. Les jeux chimiques sont ouverts à partir de 6 ans à l'ICOA, Institut de chimie organique et analytique. Et rendez-vous bien sûr sur le site de la Fête de la Science pour trouver les très très nombreux rendez-vous proposés par cette fête. Le thème cette année, thème de la 30e édition donc, Eureka, l'émotion de la découverte. L'actualité à hauteur d'enfant au menu de Barbatruc cette semaine avec Anne Cordier et Julien Mock. Anne Cordier, ancienne professeure documentaliste en collège et en lycée. Julien Mock, journaliste, créateur de podcasts pour les enfants et pour les ados. Notre reporter Juliette Proutot est à Nantes cette semaine. Elle a posé à des enfants cette question. Comment savoir qu'une information est vraie ?
On sait qu'une information est vraie parce que des fois c'est prouvé scientifiquement. Bah parce que il y a des témoins qui ont vu et qui ont raconté à d'autres gens. Et puis après c'est atterri à la radio. Et puis après bah il y a les adultes ils écoutent souvent la radio. Du coup bah ils ont entendu.
Bah on cherche sur internet pour savoir si c'est vrai.
Mais après justement internet c'est pas tout le temps fiable. Mais d'abord on essaie de parler de. On essaye aussi de débattre entre nous, je pense, ce qu'on entend. Après, on essaye d'en débattre pour savoir si la véracité des propos et tout.
Mais quand même, c'est un peu comme si tu disais « Oh, super, maintenant aujourd'hui, il y a des dragons en ville !»
Déjà, ça, ce serait une mauvaise information. Donc,
En fait, ça se voit, par exemple, même si on dit « Notre-Dame est faite en bois », ce serait un peu bizarre. Ou alors, par exemple, c'est un peu comme si, y a des personnes qui disent « Oh, regardez !»
Il y a des frites en carton.
Il y a des frites en carton, il y a des...
C'est pas possible, en fait.
Et genre, à l'école, on vous en parle ou pas, je sais pas, des médias, pour vérifier si une info, elle est vraie ou pas aux
Oui.
Et ils vous ont dit quoi ?
C'est là qu'il faut aller bien s'informer de les sources qu'on est, vérifier les sources...
Oui. Vérifier sur internet pour voir les sources.
Ou alors tu demandes à tes parents pour savoir si eux aussi ils en ont entendu parler et pour dire si c'est vrai ou pas.
En fait, moi je pars du principe quand on entend la radio et tout, je me dis l'info elle est déjà vérifiée plusieurs fois, du coup je regarde pas forcément. Après, je peux regarder pour des précisions, mais je vais pas aller revérifier beaucoup l'info. Mais ça dépend sur quoi on l'a vu en premier, si c'est sur Insta par exemple.
Ouais, les réseaux sociaux, moi je. Il y a des fois c'est trop gros, tu regardes, non. Non. Ouais. Donc souvent c'est... Ouais, surtout... moi je vérifie pas forcément, mais quand il y a des trucs qui sont trop gros, je me dis non.
Oui. Là, c'est ça.
Là, voilà. Ouais.
Propos recueilli par Juliette Proutot. Quand c'est vrai, ça atterrit à la radio, viens-je d'entendre. Et j'aime beaucoup ici l'emploi du mot atterrir. La répétition du mot source doit vous faire plaisir, Julien Mock.
C'est super parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même une vigilance. Alors après, ça n'est pas représentatif de la population
bien
française,
sûr.
Des enfants, évidemment, mais ils ont les bons réflexes. Quand une info est bizarre, les frites en carton, Notre-Dame...
Le dragon en ville.
En bois, le dragon en ville, on se méfie. Bon, donc attention, c'est peut-être une info qui n'est pas une info, qui est peut-être juste une rumeur ou quelque chose qui vise à faire peur. La science, les témoins, donc on commence à introduire l'idée que pour avoir une information confirmée, c'est bien d'avoir des gens qui ont assisté à l'événement, par exemple, et puis on recoupe les sources, le terme source qui revient régulièrement. Oui, mais on sent qu'il y a un vrai travail d'éducation aux médias derrière tout ça.
Vous intervenez, vous, parfois dans les classes,
oui.
Julien Mock. Comment est-ce que vous abordez cette question, cette éternelle question des fake news face aux enfants ?
Plutôt que de parler de fake news, on essaye de leur expliquer ce qu'est notre travail en leur parlant avec des exemples concrets. Imagine, tu rentres à l'école et t'as un copain qui te dit « Waouh, attends, il y a Neymar et Messi qui sont tous les jours à 10h pendant qu'on est en cours, ils passent devant le collège, c'est super, ou devant l'école, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vérifier cette information ?» Et non, après, une mise en situation rapide, on va voir. Hein, ça peut être. On sort, alors avec l'accord du prof ou de la maîtresse, à 10h on se met devant l'école. Est-ce qu'il y a Messi, Neymar ? Non. Bon, visiblement, on reviendra demain, après-demain. A priori, ça n'est pas une bonne information. Voilà. Et par cette mise en situation, ces petits échanges, l'idée c'est toujours de les guider dans la compréhension, qu'ils fassent la démarche intellectuelle tout seuls, mais qu'ils apprennent à comprendre le travail de recouper des sources, de se méfier de certains sites, de petit à petit se forger son sens critique, savoir quelles sources. On peut croire quelle source d'information nous paraît crédible, quel site, quel média, quel ami, Ça peut être ça aussi, le copain crédible, celui qui raconte un peu plus de fantaisie. Voilà, c'est comme ça qu'on avance petit à petit avec eux.
Anne Cordier, on a parlé tout à l'heure du rôle de l'actualité, des informations pour développer l'esprit critique des enfants. Je voudrais aussi qu'on parle du doute, notamment l'ancienne professeure documentaliste que vous êtes. Ça doit vous tenir à cœur de susciter, de cultiver le doute chez les enfants.
Oui, alors cultiver le doute, mais pas la défiance, ce qui est vraiment très très différent. Et justement, pouvoir aussi poser des certitudes. Je sais où je vais pouvoir trouver. Je sais vers qui je vais pouvoir aller.
Identifier les sources, donc.
Identifier les sources. Ça, c'est important, parce que c'est vrai que sinon, du doute à la défiance, on bascule facilement, et derrière le complotisme, etc. Et donc ça, c'est essentiel. Et ce qui est important, en fait, c'est de poser ensemble et de se poser ensemble des questions. Et après, par la démarche d'enquête, d'investigation, alors soit sur le terrain, soit sur du corpus, parce qu'ils vont faire des recherches dans des journaux, dans des différents types de médias, soit les deux à la fois, aller répondre à des questions qu'au départ, peut-être, on se posait pas, mais finalement, voilà, là, il y a un moment où il y a un adulte aussi qui est venu susciter la curiosité.
C'est vraiment ce que je retiens de tout ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est d'éviter de se mettre en surplomb, finalement, et de se poser des questions avec les enfants.
Se poser des questions avec eux, parfois leur dire aussi, mais moi je sais pas et j'aimerais bien savoir. Et donc leur déléguer à eux la responsabilité de nous informer. Ça c'est aussi important parce que c'est prendre conscience que quand je retweete, quand je like, quand je partage une information quelle qu'elle soit, je prends une part de responsabilité.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là, tu l'es, mon petit loup.
Allez, il est temps de nous asseoir par terre dans une librairie, au rayon jeunesse de préférence, pour feuilleter deux nouveautés. Voici les conseils tant attendus de Denis Chessou. Bonjour Denis.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Oui, on va d'abord ouvrir ce premier album. Il était une forme de gazole et cruciforme aux éditions Maison Georges à partir de 6 ans. Alors vite, c'est l'heure du conte.
Il était une fois, érigé au sommet d'une falaise aiguisée, un immense château nommé Pointu-Droit-Dur.
Drôle d'habitant, hein. Le roi et la reine étaient exigeants. Il tolérait uniquement les sujets faits de lignes droites et d'angles pointus. Alors tous ces personnages sont des formes géométriques, le roi est en forme de couronne, la reine en pointe de flèche.
Mais il y avait une ombre au tableau, la reine et le roi ne parvenaient pas à avoir d'enfants, et cela les plongeait dans une profonde terreur.
Eh ben oui, pas d'enfants, pas de succession, la lignée viendrait à disparaître.
La vérité, c'est qu'ils eurent beaucoup d'enfants, mais aucun d'eux n'était acceptable.
Ils n'étaient jamais assez pointus à leurs yeux jusqu'ici. N'ont eu que des enfants ondulés, flasques ou gonflés.
Le temps passait, mais rien n'y faisait. À chaque naissance, l'enfant n'avait pas la bonne forme, dérogeant systématiquement à la rigidité exigée.
Le roi, sans pitié, faisait alors appel à un bourreau pour se débarrasser d'eux. Mais la reine, ah bah, ne peut accepter un si funeste destin pour ses enfants et décide de les cacher en forêt.
Arrivés au cœur des bois, ils entendirent une étrange petite voix.
Ah, c'est celle d'une fée ou d'une sorcière triangulaire. Et elle se réjouit de pouvoir adopter autant de monde. Et elle promet un enchantement pour le futur enfant de la reine qui tombe enceinte.
C'est une fille ! Nul besoin de vous faire un dessin, elle était parfaite en tout point. Ses angles et ses lignes étaient purs, la symétrie totale. L'enfant idéal était équilatéral.
Miracle ! Et comme toutes les princesses des contes, eh ben, elle est vite sommée de trouver un mari à la hauteur des attentes de son père. Et alors là, aucun prétendant ne plaît à la princesse et le roi s'en agace.
Je ne te laisse plus le choix. Le prochain prétendant qui entre au palais te sera marié qui que ce soit.
Et là, vous vous demandez qui va franchir le seuil du palais.
Entra un drôle de bonhomme, tout rose et roulé comme un chewing-gum. Jules la bascule, un crâne d'œuf, aucun angle, un nom ridicule. L'assemblée l'observait. Incrédule.
Un cauchemar pour le roi. Mais que va en dire la princesse ? Alors ce conte bouscule le genre hein, en imaginant une histoire où les protagonistes ont une géométrie variable. Et cette idée farfelue ne se limite pas à la pure esthétique puisqu'elle est partie prenante de la narration et alimente à grand renfort de jeux de mots, des situations cocasses, des illustrations mathématiques et donc tout l'humour de ce livre.
Un livre qu'on peut dire habile et joueur, Denis.
Ouais, mais c'est ça, et qui ouvre plus que jamais l'esprit et démontre qu'on peut faire de la littérature avec virtuosité, quel que soit le matériau dont on dispose. Donc euphorie créative, très communicative, il était une forme de gazole et cruciforme aux éditions Maison Georges. C'est à partir de 6 ans. Alors là aussi, à partir de 6 ans, mais jusqu'à 8-9 ans. Un secret de Magdalena et Elsa Auriol aux éditions de l'Étagère du Bas.
Tu ne diras rien, Paul, hein, tu promets ? Promis, juré, craché.
Laura est son amie d'enfance, son amie d'hier, d'aujourd'hui et de demain et de toujours, espère-t-il.
Mais j'ai le cœur en boule de tambour.
Et dans la cour de récréation, ça n'arrête pas.
Elle t'a dit quoi ? Rien, elle ne m'a rien dit. Menteur, tricheur, elle t'a dit un truc, on le sait, hein. C'est quoi ce secret ?
Émile est jaloux. Si tu ne dis pas, t'es plus mon copain, hein. Et puis il le fuit, il lui montre ses points. Mais Paul tient bon. Laura lui a dit...
Je suis amoureuse d'un garçon, mais je ne te dis pas qui.
En classe, une boulette de papier qui ne lui était pas destinée arrive sur son bureau. Et il lit le message.
Qui lui donnera la réponse ?
Alors parler des premiers sentiments en finesse, hein, sans tourner en dérision ce secret qu'on a envie de savoir, c'est le thème subtil de cet album. Sur le chemin, il marche silencieusement et Paul se lance.
Mais pourquoi tu ne m'as rien dit ?
Laura rougit et puis elle sourit.
Mais si je te l'ai dit... En secret, mais maintenant tu le sais en vrai.
Naissance des émotions amoureuses, hein, mais aussi dans une époque de fausse transparence où la pression du groupe est importante, savoir garder un secret, résister aux autres, tenir par amitié, ça vous forge aussi vos valeurs. Peinture à l'huile aux allures classiques, intemporelles, font que chacun peut s'identifier, puis vous avez une variation de plans, larges, portraits, jambes en cours de récréation, et puis aussi...
Elle me prend la main et nous marchons sans rien ajouter.
Alors nous non plus. Force douce de ce secret, signé Magdalena sur des peintures de Elsa Auriol, aux éditions L'Étagère du Bas, de 6 ans jusqu'à 8-9 ans. Merci à Lucie Cospala, Eric Oswald, Denis Chessou, nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci beaucoup Denis Chessou. On clique à la page de L'As-tu lu mon petit loup pour retrouver les références des ouvrages sur le site de France Inter. Nous approchons de la fin de Barbatruc. J'ai une dernière question à poser à mes invités. Question rituelle. J'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Anne Cordier.
Alors l'odeur de mon enfance, c'est une odeur que je ne ressentirai plus jamais. En fait, parce que c'est l'odeur du petit appartement parisien, enfin en région parisienne, qu'habitait mon arrière-grand-mère maternelle, Léonie. À chaque fois qu'on allait lui rendre visite, ma sœur et moi, elle nous offrait des bonbons créma. Mmh. J'ai découvert bien tard d'ailleurs que ça s'appelait créma, parce que c'était les bonbons de mon arrière-grand-mère. Et donc c'était des bonbons qui sentaient le caramel et la réglisse avec une tête de tigre dessus. Et tout ça donné dans ce petit appartement, c'était une odeur merveilleuse. Et je suis ravie d'ailleurs de pouvoir convoquer ce souvenir de ma mémé Onique, comme on l'appelait.
Mémé Onique ?
Mémé Onique, et je suis ravie de convoquer son souvenir ici dans Barbatruc, c'est chouette.
Julia Mock, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Je vous aurais bien parlé des crêpes du dimanche soir à la maison. Ça, c'est vrai que ça donne envie, surtout celle de ma maman. Enfin, c'était collectif, c'était familial. Mais moi, j'ai choisi plutôt aussi un souvenir qui me ramène vers mes grands-parents. C'est l'odeur de la poussière du sol de la cave de mes grands-parents à la campagne, dans l'Oise.
Ça sentait quoi ?
C'est très particulier. En fait, ça sentait la liberté, bizarrement. J'étais dans une cave, mais ça sentait la liberté parce que c'était une cave où je pouvais aller tout seul. J'étais en vacances chez eux.
Il y avait des trucs et des machins.
Il y avait des trucs, des machins. Il y avait tout un tas de bazar. On pouvait ressortir le bicross de mon grand cousin qui servait plus, construire des choses dans le jardin. Il y avait les outils de mon papé. Il y avait des jeux de fléchettes, des jeux de pétanque. C'était un joyeux bazar. Et ce bazar et cette odeur de poussière, là, pour moi, c'est la liberté des vacances chez mes grands-parents.
Je les aime beaucoup, les odeurs de cette semaine. Les bonbons de mémé Onique et la cave, la poussière plutôt, cave des grands-parents.
La terre battue, ouais.
On les met sous cloche et elles rejoignent ces deux odeurs, notre recette secrète du parfum de l'enfance. Grandir connecté, les adolescents et la recherche de l'information, signée Anne Cordier, est à lire chez C&F Éditions, un livre pour les grandes personnes plutôt. Et les podcasts que vous produisez, Julien Mock, chez Billy the Cast, sont eux pour les enfants qui à inventer et à mettre entre toutes les oreilles à partir de 6-7 ans et jusqu'à 18. Allez.
Oh bah comme vous voulez. Allez, après, faites-vous une idée.
En théorie, c'est pour les 8-12 ans.
Vrai.
Voilà, un podcast à retrouver notamment sur l'application Bayam, application de Bayard Jeunesse, mais aussi sur le blog d'Image Doc et sur les applications de podcast. Qui a inventé les pâtes ? Qui a inventé la poubelle ? Qui a inventé la démocratie ? De quoi éclairer la curiosité des enfants. Mille merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Dorothée.
Et à bientôt sur France Inter.